Amis de Radio Silence, bonjour, ou plutôt bonne rentrée. Nous sommes le jeudi 16 septembre, c'est la rentrée pour tous, et Radio Silence ne va pas manquer à l'appel. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok pour Radio Silence. Durant l'été, là, ces derniers jours, bon, durant l'été, il s'en est passé des choses, bien sûr. Et on va pas toujours tout rapporter, vous avez suivi. Et plus particulièrement, le fiasco de la fin de la guerre en Afghanistan. Mais on n'a rien raté parce que c'était donc le 11 septembre, le 9-11. La commémoration du 9-11. Et pour cette commémoration, on a rappelé tous ceux qui étaient là, tous les acteurs qui ont parti, enfin qui étaient présents, les acteurs politiques de haut plan. Donc le président George Bush, le commander in chief en ce moment-là. Ils sont venus, donc tous les hommes politiques. Vous savez, l'Amérique, elle aime les grandes commémorations. Si ça va avec leur parti pris militaire qu'ils ont pour lequel ils ont opté depuis des décennies comme politique étrangère et même comme diplomatie. Comme on dit, on rameute les troupes parce que c'est aussi ça, hein, vous savez le gouvernement, le commandement tient d'abord du commandement militaire. Il y a quelque chose de militaire dans l'art du pouvoir. Ça va ensemble. La cérémonie en elle-même, bon, du classique, mais peut-être qu'avant d'arriver à cette cérémonie, faire un tour vite fait dans ce que je crois c'est France 24. Ou alors, parce que je suis toujours au Cameroun, vu du Cameroun, ou RFI, mais je crois bien que c'était France 24 a réalisé comme grand reportage, grand angle sur ce qui s'est passé, quels étaient un peu les enjeux et les réflexions, et qu'est-ce qui a précédé à la guerre en Afghanistan, notamment les rapports secrets, vous savez, et ce que... Le général Colin, je sais plus comment on l'appelle, Powell, avait dit sur les armes de destruction massive. Vous savez, tout cet enchaînement macabre qui a eu lieu et où on expliquait, vous savez, les experts se succédaient les uns les autres et chacun essayait un peu d'expliquer que oui, mais en fait, on dédramatisait parce que c'est le moment de dédramatiser après tous les fiascos, la chaîne du fiasco qu'il y a eu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une faillite. On va résumer qu'ils essayaient d'expliquer la faillite et la faillite, oui, bon, parce qu'on ne va pas dire complicité, la faillite de l'espionnage dans cette affaire et on ne comprend pas trop. Les uns expliqués par une approche émotionnelle, d'autres expliqués par des manquements dans la façon de travailler, notamment celui qui a fourni au général Colin Powell les documents, enfin, vous savez, sa preuve, là, aux Nations Unies, et que le général avait bien pris soin de lui dire, oui, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Et lui, il avait dit, oui. Et alors, le général lui avait dit, ben alors, si c'est cela, vous serez installé tout juste derrière, à côté de moi, et comme ça, on emportera la responsabilité collective. Il en ressortait une forme de légèreté dans l'approche. Vous voyez, ici, c'est comme ça qu'on travaille dans ce management militaire au niveau international quand même, qui va occasionner quand même beaucoup de dégâts dans un pays comme l'Irak. Vous voyez, bon, c'est cet enchaînement diabolique qui semblait avoir été considéré comme du menu frétin. Ça faisait partie de la façon de travailler, on peut dire, imaginer un scénario tout simplement pour qu'il serve de prétexte à une intervention militaire de l'Amérique quelque part dans le monde. Donc ça déjà, c'était très 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 choquant. parce qu'on voyait la légèreté en plus avec laquelle ces gens racontaient ça. Ils n'avaient pas de remords, en fait, ou plutôt un remords simulé, avec, comment on va dire, des sourires en coin, dont on ne savait pas si c'était des aveux ou si c'était vraiment du cynisme pur. Et puis alors, bon, bref. Cette légèreté du travail, de légèreté de l'être, l'insoutenable légèreté de l'être, comme dirait l'auteur que vous connaissez, Kundera, qui finit par tuer des milliers de personnes. C'était un peu, c'était très choquant. Alors, la faillite, avait-il faillite de l'espionnage? Non, non. L'ex-sénateur Ron Paul, qui dirige donc le Rand Paul Institute, est revenu sur cette chose-là, parce qu'on a vu le retrait de Kaboul. Entre-temps, le retrait de Kaboul, une autre catastrophe, un désastre. Il semblerait qu'il y ait encore 5 000 soldats américains en Afghanistan, qu'on n'a pas évacué. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tout d'un coup une précipitation comme cela, comme celle-ci. Ah oui, on expliquait par le fait que il y a une date butoir, et s'il y a une date butoir, ben, il faut la respecter. Vous voyez, les procédures prennent le dessus sur la vie humaine. La procédure dit qu'on arrête le 31 août, et dès que le 31 août arrive, ben, c'est fini. Peu importe s'il y a encore des gens là-bas, s'il y a encore du matériel, si. Vous voyez, ça ne compte pas. Il y a un effet. En fait, c'est inexplicable, ce genre d'irresponsabilité au gouvernement et ce genre d'ossification, comme on dit toujours, des pratiques bureaucratiques et des procédures juridiques ou je ne sais pas quoi, ce que le Congrès décide, sans tenir compte du pragmatisme du terrain. Et les généraux, pardon, font partie du staff qui décide de cela. Bon, pour le sénateur Ron Paul, les choses sont plutôt claires, hein. Il ne faut pas non plus se cacher la face. De toute façon, le sénateur Ron Paul, on peut toujours dire que c'est un républicain, donc il va critiquer, mais il ne peut pas critiquer George Bush quand même, parce que George Bush était précisément un républicain, puisqu'il n'est plus. Donc, ce n'est pas une affaire de républicain contre démocrate, c'est une affaire d'humaniste contre des bouchers aujourd'hui qui dirigent le monde. Et Ron Paul Institute, vous regarderez dans le ronpaulinstitute.org, il écrit un édito qui commence par dire: on n'a pas appris les leçons, les leçons n'ont pas été apprises. 20 ans plus tard, on n'a rien appris du 11 septembre. Non seulement on n'a rien appris du 11 septembre, on n'a rien appris de tout le reste. Enfin, on n'a rien appris sur la nécessité de corriger absolument, impérativement, la trajectoire de la politique étrangère américaine, qui est une trajectoire mortelle. En fait, mais pas seulement parce que c'est militaire, hein, mais c'est que cette idéologie a corrompu tous les gouvernements du monde, tout le système mondial, d'une façon ou d'une autre, et que tout ce qui s'exprime aujourd'hui en termes de tyrannie et de dictature et de suppression des libertés d'expression et de trucage des élections dans le monde, c'est une conséquence directe de cette pratique-là. Alors, moi, je vais vous lire l'édito du. Je vais vous lire, je vais retenir. Je vais vous passer les deux ou trois idées fortes de cet éditorial qui dit: pendant des décennies, nous avons été, nous, l'Américain, parce qu'il parle, c'est un Américain, bien sûr, nous avons été au Moyen-Orient pour sanctionner ou alors bombarder les populations civiles. Alors, ce bombardement qui, comment on va dire, était toujours basé sur l'idée que ce sont des terroristes, ces bombardements, allez donc chercher les terroristes. Ces bombardements, c'était une excuse pour aller tuer les gens en leur présentant l'idée que il faut concéder vos libertés et en échange de quoi, nous, on va vous protéger contre le terrorisme. Ce qui est déjà quand même quelque chose d'absolument cynique, inique même. Et donc le président Bush, il rappelle qu'il avait dit que oui, ben les terroristes, c'était tout le temps l'excuse, hein. Les terroristes n'aiment pas l'Amérique, le modèle occidental, parce que Allah, et vous savez, c'était toujours l'Ouest contre l'Est, c'était toujours un phénomène religieux qui venait comme ça expliquer ou encadrer toute une fausse réflexion de la recherche de la domination, tout simplement, du Moyen-Orient. Et donc le président Bush, il rappelle, le sénateur Hambourg le rappelle, avait dit, oui, mais vous savez, les terroristes, ils nous frappent parce qu'ils n'aiment pas notre façon de vivre. Nous vivons dans un monde de liberté. Aujourd'hui, on en rigole. Et ça leur plaît pas. Donc, ils vont tout faire pour attaquer notre civilisation et la détruire. Voilà, la guerre des religions. Version bis, version politique. Donc, monsieur le sénateur Jean-Paul dit que ça, c'était vraiment un mensonge servi sur un plateau, encore une référence religieuse. Donc, cette histoire, il nous tue parce que il n'aime pas notre mode de vie. Je veux dire, les gens sont chez eux, ils viennent vous tuer. Parce qu'ils veulent pas, ils n'aiment pas votre mode de vivre, ça veut dire qu'ils sont. C'est une déclaration de guerre, en fait, en termes clairs. C'est ce qu'il essayait de dire, que les musulmans ont déclaré la guerre aux Occidentaux. Et ça, effectivement, ça pouvait embrouiller la population qui ne savait plus très bien ce qu'il fallait comprendre. Et voilà, George Bush dit oui, il nous déteste, pas seulement George Bush, ça toujours il nous déteste parce qu'il n'y a aucune, il y a aucune autre raison, il y a aucune autre raison que celle-là. Parce que, vous savez, on dit que eux, c'est des ayatollahs, c'est des intégristes, et donc ils sont des gens contre la liberté, et pour cela, ils veulent imposer l'islam au niveau mondial. Voilà l'idée qu'il y a derrière. Oh, c'était. Un peu fort tiré de café parce que derrière, ça fait des décennies donc on tue, toujours pour ce prétexte-là, on lutte contre les terroristes, lesquels terroristes on a vu qui ont été qui étaient financés par la CIA elle-même. Donc on crée un ennemi imaginaire pour donc se servir de cet ennemi imaginaire comme prétexte pour occuper le Moyen-Orient où il se jouait les questions d'abord de pétrole. Et puis des questions de pouvoir, pas de pouvoir, on va dire des géopolitiques et des géostratégies, parce qu'à partir de cette région-là, on était près de l'autre côté, vous savez, de l'autre frontière, la frontière asiatique. On était du côté près de l'Iran, on était près de l'Ukraine, etc., etc. Toutes ces zones interdites aux assoiffés du pouvoir. Le sénateur Ron Paul, dans son argumentaire, rappelle que la secrétaire d'État Madeleine Albright avait rappelé au moment où l'Amérique était entrée en Irak, où elle était présente en Irak, que c'était vraiment, ça valait la peine de tuer, ça se justifiait de tuer un demi-million d'Irakiens, de petits-enfants, parce que il fallait, si cela était le passage obligé pour, comment on va dire, enlever Saddam Hussein du pouvoir, alors c'était nécessaire, ça valait la peine. Bon, ce qui est choquant, l'éditorial continue, c'est de voir que on a toujours déguisé des interventions mortelles comme celle-ci pour la lutte du pouvoir, pour la quête du pétrole et autre chose, en, comment on va appeler, il appelle ça les humanitarian liberation. Donc, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais c'est lié à la fois de la libération, et puis on vient vous donner la liberté et de l'humanisme. Vous voyez, c'est pas très évident à traduire, mais au nom de l'humanisme et de la liberté, ben, on va tuer, on va tuer. Et ça, c'est. Les raisons inavouables pour lesquelles on va en guerre aujourd'hui font qu'on ne peut que déguiser cela en opération humanitaire, en opération de liberté qu'on apporte au peuple. Bien sûr, tous les peuples se plaignent, je veux dire, c'est comme en Afrique, c'est comme c'était en Asie, c'est comme ça va être là-bas au Moyen-Orient, qu'ils ont moins de liberté que chez les Occidentaux. Mais ça, c'est pas vraiment une question, c'est moins une question politique qu'une question religieuse. Alors, venir greffer le politique sur une question religieuse ou culturelle, c'était un peu compliqué, et d'autant plus que l'explication était fausse. Donc, le sénateur conclut et il dit, le problème, c'est que Washington, l'élite à Washington est profondément corrompue, et elle utilise donc son train de la mort comme un éclaireur, comme comment je dis, un missile qui leur permet de dégager la voie pour l'occupation de beaucoup de pays, et peut-être pas l'occupation, mais pour ces questions de géostratégie. Donc, dire aux gens de céder vos libertés contre la sécurité, c'est vraiment ce qui a caractérisé toute cette intervention. Mais là où ça devient, voyez, très intéressant, c'est que tout au début, ça concernait le Moyen-Orient, mais vous voyez que cette équation qui consiste à demander aux gens d'échanger leur liberté contre la sécurité, c'est ça qui permet au gouvernement aujourd'hui de surveiller tout le monde tranquillement. C'est ça qui permet au gouvernement aujourd'hui de faire un peu ce qu'ils veulent. Et à la limite, il suffit qu'on vous dise que ça, c'est pour la sécurité du pays, pour que vous vous taisiez tout ce qui, je veux dire, tous les actes de piraterie gouvernementale, de mismanagement, comme on dit, s'auto-justifient par cette histoire de sécurité, terrorisme, et puis insurrection, tout ce que vous voyez un peu autour, ça concerne presque tous les pays, je ne vais pas les citer. Et on va cacher maintenant la malgouvernance derrière cette équation sécuritaire qui vous prend tout, qui vient s'interposer comme étant la constitution, la nouvelle constitution. Et au fond, le sénateur conclut que il faut tout simplement que l'Amérique arrête le règne de sa politique qu'il appelle le killing machine. Vous savez, killing machine, c'est pas seulement la référence aux militaires. Le killing machine, c'est tout ce qui tue les libertés. Le killing machine, c'est tout ce qui tue les démocraties. Le killing machine, c'est tout ce qui tue la justice et la justice sociale. Le killing machine, c'est tout ce qui protège les brigands au pouvoir. Le killing machine, c'est tout ce qui est impôts que les riches ne payent pas. Le killing machine, c'est beaucoup de choses derrière. Et c'est vrai que pour cacher cette incompétence, pas cette incompétence, ces choix corrompus. Quand on dit l'élite de Washington est corrompue, c'est toute la plateforme gouvernementale, c'est le Congrès et c'est tout l'appareil judiciaire. Et on a vu très bien ce que cela a donné lors des dernières élections aux États-Unis. Alors, le problème de la machine à tuer. Les libertés, tout ce que vous voulez, le social, le développement. Mais ça, c'est pas seulement un problème qui regarde l'Amérique, c'est un problème qui concerne le monde et l'Afrique en particulier. Sinon, j'ai quand même un coup de cœur. Le président Alpha Condé en Guinée a été, bon, c'est vrai qu'il fait un mandat de plus, mais il y a eu victime d'un coup d'État parce que, ben, comme Idriss Déby, il a commencé à vouloir bien manager. Hein? On en parlera peut-être une autre fois. Il a donné des consignes directes qu'on a vues dans une vidéo. Et ces consignes étaient de manière à renverser, n'est-ce pas, toute la logique, ce qu'on dirait, c'est militaire, c'est politique, c'est philosophique, toute la logique qui fait que l'Afrique, et ça c'était aussi le choix qui avait été fait sur le Moyen-Orient, on dirait que pour que l'Ouest se développe, il faut qu'il y ait des zones d'esclavage et qu'il y ait des zones de seconde humanité, de sous-humanité. Et ces zones-là, c'était le Moyen-Orient, c'est probablement l'Amérique du Sud et c'est forcément l'Afrique. Et donc, si ça ne change pas au sommet, on ne voit pas trop comment ça va changer ici sur place. Donc, vous parlez, c'est ici sur place en Afrique, c'est comme ça. Vous parlez, vous risquez d'avoir des prises dans votre maison qui vont sauter de façon très violente, c'est-à-dire avertissement. C'est toujours la logique du killing machine. On tue tout, on tue tout. Et en particulier, on tue la possibilité d'avoir une opinion contraire, on tue la possibilité d'opter pour autre chose que ce que les maîtres du monde imposent. Mais plus même qu'imposer, qu'y a-t-il à imposer? Ils n'imposent pas ça pour le bien des populations sur place. Ils imposent ça d'abord pour leurs propres intérêts et accessoirement pour les vôtres. Que s'est-il passé alors le 11 septembre? Un autre article que vous verrez dans le Ron Paul Institute explique clairement que c'était même pas une défaillance, c'était une chaîne de complicité, un peu comme si des gens fermaient les yeux volontairement, un peu comme si cette opération-là a été menée de concert avec Ben Laden, enfin ceux qui sont venus faire ce qu'ils ont fait dans les Twin Towers, parce qu'il y a eu une chaîne je vais dire, d'aveuglement qui fait que le FBI savait, la NSA avait des informations, vous savez, la Fédération de l'aviation à partir desquelles qui contrôle tout ce qui décolle et ne décolle pas. Bon, la CIA, FBI, bon, tous ces gens-là avaient été briefés à l'avance et alertés, et ils ont négligé, y compris le vice-président Dick Cheney à l'époque. Et pourquoi ils ont négligé? Parce que c'est toujours, on ne va pas dire un complot, mais c'est-à-dire que dès lors qu'ils ont jeté le dévolu sur un ou deux pays ou trois, parce que ces pays-là, on a vu la plupart du temps, ne sont pas obéissants, on n'obtempère pas aux diktats que leur impose la killing machine, dès lors que c'est comme ça, ben, on trouvera un scénario. De la même façon qu'on a sacrifié 1 million d'enfants irakiens, bon, on sacrifiera facilement 3 000 Américains et leurs familles pour trouver la matière à prétexte pour tout leur projet par la suite. Encore une histoire de pouvoir machiavélique et on n'en parle pas vraiment. On parle d'autres choses, c'est les terroristes, c'est les terroristes, c'est les terroristes, mais ça c'est au Cameroun. Hein. Pareil, si on regarde bien, on dira ceux qui sont en train de vouloir se séparer, enfin revendiquer le fédéralisme, bah, c'est des terroristes. Le problème, c'est que le management public ne se remet jamais en question, ou plutôt en ce moment au Cameroun, je termine là-dessus. Quelque chose qu'on appelle la décentralisation, qui, au vu de ce qui se passe, arrive trop tôt dans l'histoire. Ça arrive trop tôt et il y a déjà des effets, de neutralisation, notamment dans les villages, il y aura des problèmes. Et puis, il y a le fait qu'on aura du mal à distinguer les compétences. Et puis, comme on dit, hein, tant que pour le Cameroun, il n'y a pas d'infrastructures, de grandes infrastructures, tant qu'il n'y a pas un management juste, enfin juste des grands mots, mais un management efficace. On en sera là, avec les trains de la mort qui passent. Sauf que la mort ici, en Afrique, elle passe pas comme elle est passée brutalement là-bas à Kaboul, comme elle passe brutalement en Amérique. Mais c'est toujours la même philosophie. Il semblerait qu'il faille sacrifier dépend, enfin, des personnes, beaucoup de personnes, que le sang coule, que les gens sont malades, que les gens souffrent, je ne sais pas, pour que c'est, enfin, il faut cela pour que certains prospèrent. Donc, on prospère aujourd'hui sur un grand bain de sang mondial, sur des squelettes. C'est pas très loin de ce qu'on a vu avec ce qui se passait à une certaine époque sordide de l'histoire qu'on ne nomme plus et qui est très récente. Et on marche sur les squelettes, c'est terrible. Bien, c'est la rentrée quand même, hein. On solde 20 ans de ce passif américain. Enfin, de ce passif américain, est-ce que l'Amérique a vraiment changé de logique? Oui, depuis que Trump est passé, ça a un peu changé. Ça s'est ralenti, et que maintenant, pour repartir comme avant, ça sera quand même différent. Amis de Radio Silence, je vous renouvelle mes voeux de bonne rentrée pour cette année, une excellente année pour les élèves, les étudiants. Et vous avez écouté Flash sur le monde. C'était Lise Bock pour Radio Silence et je vous dis à bientôt.